7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines pour se parler chaque jour du nord au sud. En cette journée mondiale de la télévision, c'est l'occasion de s'interroger sur les effets de la télévision, sur l'apprentissage, sur l'éducation au sens large du terme. Quelle place tient la télévision dans la vie de vos enfants? Faut-il limiter ou interdire les écrans aux plus petits? Évidemment, on attend vos témoignages, les voisins, les voisines, et vos réflexions sur le sujet et vos questions pratiques. Si vous êtes parent, si vous êtes enseignant ou lycéen, 33 1 84 22 71 71. Plusieurs experts participent à l'émission. Michael Stora, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, psychanalyste. Vous avez écrit et travaillé sur l'impact des images sur les enfants. Nous serons également en ligne avec Bertrand Bergier, qui lui est sociologue, professeur à l'Université catholique de l'Ouest et professeur associé à l'Université de Sherbrooke au Canada, qui a d'ailleurs mené une enquête sur les familles qui n'ont pas la télévision en France. Autant vous dire qu'elles sont assez rares. Et nous entendrons également Moustapha Samb, qui lui est spécialiste des médias à l'université Charanta Diop. Et donc, pour dialoguer avec nos invités, vous nous appelez surtout dès maintenant pour poser peut-être des questions que vous vous posez au quotidien dans la façon de gérer la télévision avec vos enfants. 33 1 84 22 71 71. Je vais vous lire, Michael Stora, quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commenter, bien sûr. Célestin à Douala nous dit la télévision au Cameroun occupe une très grande place dans l'environnement familial, à tel point que le premier mot qui sort de la bouche d'une maman, c'est « va regarder la télé ». La télévision est l'outil indispensable pour éduquer les enfants au sein des familles, ce qui fait que ceux-ci n'agissent qu'en imitant ce qu'ils voient à l'écran. Le processus d'imitation, c'est démontré, ça
On va dire que on s'est rendu compte dans les études, vraiment, vous savez, il y a eu tellement d'études sur l'impact des images télé, mais une des études très sérieuses qui a été menée par commanditée par la BBC avec une grande chercheure spécialiste des images, s'appelle Patricia Greenfield, c'est pour montrer que avant tout, pas forcément dans le terme d'imitation, mais que les séries, les programmes télé avaient une influence sur nos représentations sociales.
C'est-à-dire... Donc notre façon de nous comporter finalement après. Alors.
Oui, alors là c'était par exemple tout simplement, tiens, dans telle série, la femme est éternelle. On va dire convoquée comme une mère de famille, alors qu'on pourrait la mettre comme patronne, ou que telle personne de couleur, noire par exemple, n'a pas de poste à responsabilité. Et c'est plutôt dans ces représentations-là sociales qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu un impact. D'où l'idée de la BBC à l'époque de faire beaucoup d'efforts pour qu'il y ait une pluralité.
Bernard au Brésil nous dit « Ici, la plupart des programmes sont horribles. Ce sont des couples qui se disputent tout le temps. Les gens qui veulent se venger ou des scènes de sexe, hein, les fameux telenovelas. C'est difficile de trouver un bon programme. Pour moi, cela a un très fort impact dans notre société, surtout quand on parle des enfants et des adolescents. Hyacinthe à Koudougou, au Burkina Faso. L'éducateur en campagne que je suis ne croit pas à la totale toxicité de la télévision. Nos élèves sont caractérisés par leurs horizons très limités et donc la télé, ça peut être un moyen pour y remédier. Le côté néfaste de la télévision n'est que l'abandon de l'éducation des enfants par les parents. Voilà, on reparlera bien sûr de votre rôle, vous les parents, par rapport à la télévision et vos enfants. Djibril Akaï au Mali, la télé peut être un outil pédagogique si on prend le soin de choisir les programmes. Les enfants se familiarisent avec le français, ils aiguisent leur curiosité, stimulent leur capacité d'écoute et d'observation. Une autre voisine s'interroge, Pam, la télé et l'éducation, faut trouver le juste milieu pour que la première soit plus instructive que toxique. C'est pas toujours évident. Personnellement, je reconnais que je regarde de moins en moins la télé, donc ça suit pour mon petit loulou. Mais quand je le laisse de longues heures devant la télévision, c'est pour avoir un moment de répit ou ne pas être dérangé. Voilà, honnête, hein, la voisine. Aliou à Bamako, au Mali. Imaginez si on pouvait avoir des émissions comme Autour de la question, Musique du monde, Priorité santé, 7 milliards de voisins à la télé, ça serait formidable. Ça, c'est vraiment très sympa. On l'a pas commandé, ce message-là. Je transmets le bouquet de fleurs à mes collègues. Merci, Aliou. Un numéro de téléphone pour participer aux discussions. 33 1 84 22 71 71. Mais tout de suite, je vous propose un reportage dans une famille où la télévision est strictement réglementée en région parisienne. Le foyer compte 3 enfants et une seule télévision. Et ce jour-là, il y a aussi le micro de Charlie Dupiot pour 7 milliards de voisins.
Maman, ce que je peux regarder est la télé.
Et qu'est-ce que tu vas vouloir regarder à la télé à cette heure-ci?
Les Ch'tis à Miami.
Ah non, ça tu sais que t'as pas le droit de regarder. Je suis pas d'accord. Pas cette émission. Ils sont trop vulgaires, ils disent des mots qui ne me plaisent pas, et puis leur tenue aussi, elle n'est pas correcte. C'est pas de ton âge, pas pour une petite fille de 12 ans.
Mais s'il te plaît, mais tout le monde la regarde sauf moi.
Mais c'est pas parce que tes copains regardent que tu dois regarder, donc non. Tu changes de chaîne, tu regardes autre chose, mais pas ça.
Bah, je peux regarder une émission de cuisine alors.
Ah bah ça, je veux bien. Si tu veux, alors on allume la télé et tu regardes. Bah, là, il y a une émission de cuisine, je crois. Ah bah tu vois, voilà. Là, on peut. Ça, je veux bien.
Je sors la bouchine de volet du four. Je sais pas du tout si ça va marcher. Quoi. Ce qui m'angoisse, c'est pas pouvoir vérifier si ça va couler.
Bonjour, je suis Cécile, maman de 3 enfants, Noémie 12 ans, Raphaël 6 ans et demi et un petit Benjamin de 7 mois. Alors pour ce qui est de la télé, on contrôle énormément ce que les enfants regardent, ils doivent nous demander l'autorisation d'allumer la télé et on vérifie bien entendu ce qu'ils regardent. Alors je dis toujours au moment d'allumer la télé combien de temps il va pouvoir regarder. Plus avec mon fils qui n'a que 6 ans et demi qu'avec ma fille qui est plus grande et à qui je peux donner un horaire et qui peut s'y tenir. Et quand on arrive à 5-10 minutes de l'échéance, je le préviens que dans peu de temps, on éteindra pour ne pas couper d'un coup et qu'il se prépare à ce que ce soit la fin du dessin animé.
Et donc vous avez vérifié quel dessin animé il regardait ?
Complètement. Il y en a que j'autorise, d'autres que je n'autorise pas. Ils sont plus des dessins animés, je dirais, d'ados, d'adultes, que des dessins animés pour enfants de 6-7 ans. Et entre autres, là, c'est plus dans les émissions pour ma fille, qui aimerait bien regarder les émissions de télé-réalité. Et là, moi, je suis complètement contre ces émissions de télé-réalité de jeunes adultes qui ne font pas grand-chose de leur journée à part mal se parler entre eux. Alors, j'autorise des programmes de télé-réalité, mais plutôt familiaux. Koh-Lanta.
Koh-Lanta, c'est une émission d'aventure.
D'aventure. Elle aime beaucoup les émissions de cuisine. Là, effectivement, je la laisse regarder.
Pourquoi, en fait, vous mettez en place toutes ces règles ?
Parce que pour moi, c'est important. C'est aujourd'hui qu'ils vont faire leur vie future et leur mode de vie par la suite, eux, avec leurs enfants. S'ils ont été habitués à être devant la télé 2 heures le matin avant d'aller à l'école et 3 heures le soir, quand eux seront avec leurs enfants, ils ne sauront pas comment les amuser, comment jouer avec eux. Ils ne seront que collés à la télévision, donc c'est important.
Je m'appelle Noémie et j'ai 12 ans.
Toi, qu'est-ce que tu penses de ces règles-là sur la télévision ?
Je suis pas du tout d'accord. Le matin, au collège, on parle souvent des émissions, par exemple les Ch'tis à Miami, les Anges, tout ça.
Donc des émissions de télé-réalité.
Et moi, je fais semblant que j'ai regardé alors que j'ai pas regardé. Je leur dis oui, tout ça. Parce qu'après, souvent, je me sens exclue.
Tu t'en exclues des conversations ?
Souvent, oui. C'est souvent de ça qu'on parle à la récréation, quand on sait pas quoi dire. Je sais qu'il y a une amie, elle a pas de règles du tout. Elle regarde quand elle veut. Après ses devoirs ou avant, pendant, elle fait ça. Souvent, je demande à papa ce qu'il peut dire oui, alors que maman, elle dit non, tu finis tes doigts, tu me montres, et voilà.
Je suis moins stricte que ma femme. Donc effectivement, elle essaye d'abord avec moi. Si je dis oui, après il y a conflit avec ma femme parce qu'elle lui avait dit non.
Donc vous êtes le père de famille.
Et moi, ça m'arrange aussi, parce que j'aime bien aussi voir la télé.
Il y a des programmes pour enfants qui sont quand même bien faits, des émissions sur des expériences, des découvertes. Et ça, ils aiment beaucoup. Ils apprennent des petites choses. Heureusement, tout n'est pas à jeter dans la télé. Il y a quand même du positif. Il faut aussi le reconnaître quand on travaille toute la journée, qu'on rentre le soir, qu'on a besoin de faire garder son enfant. La télé, malheureusement, aussi une bonne babysitter. On l'a toute fait. On se l'est toute reproché, mais voilà. On a été un peu obligé parfois de l'occuper le temps de préparer le dîner. Et la télé nous a sauvés de temps en temps.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Michael Stora, que vous évoque ce témoignage ? Les Français, en tout cas, sont de plus en plus avertis, alertés sur la nécessité d'oser la télévision.
Oui, vous avez même eu des initiatives assez étonnantes, 10 jours sans télé, etc. Bon, ce qui est vrai, c'est que bon, on a l'impression un peu que c'est au fond un foyer un peu typique, néanmoins, c'est-à-dire avec un parent qui a un discours en disant la télé, oui, mais si elle est éducative, en reconnaissant aussi qu'elle peut avoir une fonction de nurse cathodique. Et ça, c'est
nurse cathodique, oui, c'est pas mal trouvé.
C'est évident qu'à certains moments, une maman, en imaginant que c'est plus la maman qui est présente le soir, elle a parfois besoin de se relaxer, de se décompresser, et on va mettre l'enfant devant la télé parce qu'il en a envie aussi. Là où on est un peu étonné, c'est qu'en effet, cette arrivée des programmes de télé-réalité et ça c'est un point de vue très personnel, est venu un peu malheureusement polluer la qualité. Nous sommes à ce moment-là dans une sorte de jeu de cirque, on va dire assez actuel, moderne. Mmh. On voit des gens qui n'ont rien à dire, et là on est un peu dans quelque chose où le voyeurisme, mais pas dans un bon voyeurisme.
Qui se disputent beaucoup d'ailleurs. Hein,
voilà.
C'est un peu le paroxysme des relations humaines, très mis en scène. Hein.
Complètement, avec le fait que les téléspectateurs peuvent après valider, invalider tel ou tel personnage. Donc c'est vrai que c'est une dérive qui existe depuis maintenant plus de 10 ans, avec l'arrivée du loft en premier. Et là, c'est un peu une dérive, malheureusement, dans la qualité.
Depuis l'arrivée d'Internet, des jeux vidéo, etc., finalement, quel est le temps passé devant la télévision en moyenne? La télé s'effrite quand même dans les pays développés où l'enfant a tout à portée de main?
Alors, j'ai pas forcément les derniers chiffres de Médiamétrie, en général, qui les communiquent.
Là, sur 2014, oui. les 4-14 ans, ouais. Un peu plus de 2h09 ouais, par jour, en moyenne, ça. Quand même. Hein.
Ouais.
2h09 minutes, et on était à 2h15 minutes en 2013.
Tout
donc, ça s'effrite.
Ça s'effrite, et en même temps, on se rend compte qu'on passe encore plus de temps devant la télé que devant certains jeux vidéo ou devant ces écrans. Même si après 15 ans, les 15-25 ans, eux, quasiment totalement abandonné l'écran de télévision familiale. Et j'ai juste une petite anecdote, je me souviens, j'avais interrogé un enfant qui m'a dit « Quand je rentre de l'école, j'aime bien jouer aux jeux vidéo, mais je me repose devant la télé. »
Oui, c'est la passivité de la télévision.
Oui, mais...
Alors, on n'est pas acteur.
Alors, on n'est pas acteur, mais par contre, il faut savoir qu'on transforme les images que l'on voit. Hein, par rapport à ce que l'on vit, il y a des processus d'identification. Et je crois que dans cette société qui se veut d'être tout le temps un peu interactif ou actif, c'est assez intéressant parfois d'être un peu passif.
Justement, donc vous le disiez, Michael Stora, après 15 ans, la télévision n'est plus vraiment un sujet, mais par contre c'est un vrai sujet entre 3 ans et 15 ans. Mmh. Et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. La télévision est-elle toxique? Nuit-elle à l'éducation au sens large du terme? On pourra aussi se poser la question par rapport aux résultats scolaires. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
La question qu'on se pose, c'est pourquoi les gens ils sont devenus. Eh ben, c'est parce qu'il y a la télévision.
Chaque soir, nous sommes 25 millions de Français à regarder la télévision.
Regarde, tu vas.
Sans déconner, ils sont castés pour leur prénom ou pour leur voix?
Les deux.
Oui,
qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de voter?
Oui, ça t'apporte
que tu payes avec le téléphone. La robe, t'aimes bien? Sur elle, ça fait un peu arc-en-ciel, quoi.
Si elle lève les bras, on voit sa culotte.
Quel désastre.
(33-1-84-22-71-71) Nous accueillons un voisin qui nous appelle de Brazzaville, au Congo Brazza. Bonjour, Christ.
Bonjour, Emmanuel.
Vous avez 22 ans et vous souhaitez nous parler de la télévision. Je ne sais pas si c'était dans votre enfance ou ce que vous observez dans votre famille à l'heure actuelle pour les petits-neveux, etc.
Oui, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Et j'ai constaté que la télé est une place et influence grandement la vie de chacun de nous. Et ce que moi j'ai vécu dans mon enfance, j'ai constaté que la télévision n'était pas contrôlée par les parents, surtout les chaînes de programmes. Alors, j'ai été influencé négativement par ces genres de programmes et j'ai commencé à voir des programmes qui étaient, à mon âge, pas commodes, à l'insu des parents, bien sûr. Mmh.
C'est-à-dire que vos parents n'éteignaient pas la télévision quand vous étiez petit, c'est-à-dire il y a très peu de temps, vous n'avez que 22 ans, à la maison, la télévision était allumée couramment, c'est ça?
La télé était vraiment allumée, mais c'était pas la charge des parents. Les parents ne s'occupaient même pas de la télé, et la télé était l'affaire des enfants.
Oui.
Donc, voilà. Donc, c'est à nous de manipuler, et les parents ne connaissaient même pas les programmes. Donc, je suis entrée dans ces gens...
Mais vous parlez de quel genre de programmes qui ont eu un effet néfaste sur vous, par exemple?
Des programmes... qui, à mon âge, par exemple, de moins de 16, de moins de 18 que je regardais.
Donc des films violents ou des films plutôt à caractère sexuel?
Les deux à la fois.
D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez le sentiment que ça a nui à vos études, à vos capacités d'apprentissage ou pas?
Alors, Moi, ça n'a eu aucun effet sur moi parce que je suis un garçon un peu fort.
Ah d'accord, okay. Vous étiez un bon élève, voilà. C'est ça, donc vous n'avez aucun problème à l'école.
Ouais.
Mais vous dites quand même, il faut encadrer la télévision, il faut que les parents soient beaucoup plus vigilants avec la télévision. C'est un peu contradictoire, non, finalement?
C'est ce que je pense. Moi, je pense que les parents devraient jouer le rôle de chien de garde.
Ah oui, chien de garde.
Via que les parents, via que les enfants, ils regardent que c'est qui ne pourrait bien contribuer à l'éducation de leurs enfants.
D'accord, donc choisir des programmes exclusivement éducatifs, finalement, c'est ce que vous dites.
Voilà, c'est en quelque sorte cela.
Merci beaucoup, Christ, pour ce témoignage. Nous sommes au téléphone avec Bertrand Bergier, qui est sociologue à l'Université catholique de l'Ouest. Bonjour, Bertrand Bergier.
Bonjour.
Vous avez travaillé, vous, alors sur les familles qui n'ont pas la télévision en France. Autant dire qu'elles sont plus que marginales. Je sais même plus quel est le... Est-ce qu'on a d'ailleurs un chiffre aujourd'hui?
On estime à 2-3%.
Oui, c'est ça. Et vous avez envie de travailler sur ce sujet-là. Pourquoi, d'ailleurs? Pour essayer de mieux comprendre l'effet de la télévision pour ceux qui l'ont?
Oh, c'était d'abord un rapport d'étonnement hein, par rapport à ce qui peut paraître statistiquement négligeable et qui ne doit pas forcément être négligé par le chercheur. Et puis, dans ces ménages, pouvoir également rencontrer les enfants, donc aussi bien les plus jeunes que les adolescents. Je m'attendais d'ailleurs à ce que ces derniers soient rebelles, parce que c'est d'abord un choix des parents de ne pas voir la télé. Mmh. Et en fait, des rebelles, j'en ai trouvé, mais ce n'est pas chez les adolescents qui, eux, se sont éloignés de l'écran, ça ne veut pas dire éloigné d'une culture de l'écran. Je les ai trouvés chez les tout petits, les enfants du primaire. Et comme le disait très bien votre premier témoignage, il faut savoir parler télé. C'est un petit peu comme la météo, tout le monde a quelque chose à dire. Mmh. Et ces jeunes-là se sentaient marginalisés parce que justement, ils ne savaient pas parler télé.
Oui, à l'école, bien sûr.
Exactement.
Oui, la petite fille qui disait que finalement, elle faisait comme si elle avait vu le programme et qu'elle inventait un peu pour essayer de rester dans la discussion et rester dans le coup.
C'est comme une monnaie d'échange, voyez-vous.
Et oui.
Ça alimente et il faut savoir parler télé. Mmh. Et votre interlocuteur dernier nous évoquait finalement, nous rappelait qu'on disposait d'un pouvoir, c'est celui de peut-être de prendre au sérieux l'offre de chaîne, hein, celui de choisir, de potasser des programmes, et en même temps, peut-être qu'au plan éducatif, je serai prudent, je pense que le problème de la télé-réalité, notamment, c'est de tout montrer en temps réel. C'est le trop-plein, en fait, il n'y a plus de vide, il n'y a plus de hors-champ. Le hors-champ, c'est ce qui nous permet de penser par nous-mêmes, quoi. Mmh. Hein?
Alors, vous allez rester en ligne avec nous tout au long de l'émission, Bertrand Bergier. Michael Stora, vous, qu'est-ce que vous pensez, là, du témoignage qu'on a eu à Brazzaville, qui est quand même assez paradoxal, qui dit, ah non, mais les parents doivent jouer un rôle de chien de garde, vraiment fliquer la télévision pour les enfants. Moi-même, j'ai eu accès à tout, mais ça n'a eu aucun effet sur moi. De toute façon, à l'école, ça marchait très bien. Même si on sent bien que les films de violence et à caractère sexuel ont un peu choqué à l'époque où il était dans l'enfance, notre étudiant de 22 ans.
Vous avez un organisme qui s'appelle le CSA, qui est donc fait des recommandations.
En France, et qu'on retrouve dans de nombreux pays d'ailleurs.
Dans de nombreux pays, vous avez un logo qui indique... Bon, ce qui est violent d'après moi, c'est la problématique du contexte... pardon. Du contexte dans lequel on voit ces images. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui est violent, c'est le fait que des parents... peut-être laissent tout simplement leurs enfants regarder ce type d'émission. Il est évident que certains films hyper violents plus 18 ans, et lorsqu'on a 10 ans, évidemment, vont avoir un effet, je dirais même chez un adulte de plus de 18 ans. Ça fait partie de certains types de plaisirs. Et j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mon travail dans un centre médico-psychologique, d'avoir beaucoup d'enfants petits, qui souvent avec des grands ou des grands frères ou des grandes sœurs, qui faisait que par exemple, j'avais une petite fille qui était, mais hantée, véritablement hantée, parce qu'elle regardait des films comme Saw, des films comme Hostel, qui sont d'une extrême violence. Et à un moment, j'ai compris. C'est vrai que ce qui était violent aussi, c'est que les parents laissaient faire.
Donc, pour cause, parce qu'ils sont pas là, et ce sont les grands frères qui allument la télévision et qui, eux, peut-être maîtrisent mieux le recul par rapport à la violence des écrans.
Non, parce que, en fin de compte, ils laissaient faire. Donc, c'est toute la problématique de protéger l'enfant.
On va y revenir, et surtout, dans ces cas-là, quelles conséquences pour la capacité de concentration des enfants? Je vous lis le message de Samba Bamako. Mon petit frère a 9 ans, il m'a dit un jour qu'il repère un bon film à travers les signaux d'interdiction. Et il dit, dès que tu vois les signaux là en bas, ça veut dire que c'est un bon film. Allez, on se retrouve dans 3 minutes avec vos commentaires.
Sept milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, journée mondiale de la télévision. Aujourd'hui, le petit écran est-il nuisible à l'apprentissage des enfants, à l'éducation en général? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 pour poser des questions à nos invités ou aussi témoigner de ce qui se passe dans vos foyers et puis la façon dont vous tentez de gérer au mieux la télévision dans la famille. On en discute avec vous, Mickaël Stora. Vous êtes psychologue, Bertrand Bergier, sociologue à l'Université catholique de l'Ouest et professeur associé à l'Université de Sherbrooke au Canada. Je voudrais vous lire, tiens d'ailleurs, le message de Tidiani qui est à Yélékébougou, qui est à une quarantaine de kilomètres de Bamako au Mali. Cette histoire de télé, nous dit Tidiane, est devenue aujourd'hui un véritable casse-tête pour l'éducation de nos enfants. Dans mon village, notre mère a commencé à prendre des sanctions contre une foule d'enfants qui se groupent tous les soirs autour de la télévision des boutiquiers pour regarder les films au lieu d'aller apprendre leurs leçons. La sanction, c'est le fouet. Je soutiens complètement cette décision du maire. Alors, réponse de notre ami psychologue dans le studio, Mickaël Stora.
Bah, écoutez, on va dire que on va se poser la question de ce qui va se passer chez ces enfants dans le fait d'avoir un plaisir interdit. C'est-à-dire que toute la complexité, c'est plus on diabolise un objet comme la télé, plus on en fait un objet de transgression et donc de convoitise. Donc c'est vrai qu'on a envie de se dire que dans l'idéal, il faut mieux que la télé soit un allié. Par contre, oui, c'est un nouvel enjeu d'autorité. Bah, pas un nouvel d'ailleurs, ça fait bien longtemps. Les parents savent, donc il s'agit pas d'interdire totalement, mais plutôt, on va dire, de réguler et voire même, comme l'a dit notre ami sociologue, de pouvoir en parler, parler autour des programmes, etc.
Ah, et ça reste un vrai sujet, même en France, même si aujourd'hui c'est davantage Internet qui est diabolisé, pour les raisons que l'on sait, avec des vidéos assez macabres sur YouTube, mais en France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel diffuse en ce moment même une campagne de prévention pour aider les parents à protéger leurs enfants des images violentes. Avec des programmes qui sont strictement réglementés en fonction des horaires, etc.
Oui, alors en même temps, je vais être honnête, c'était il y a un an et demi, vous avez un film qui s'appelle Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, peut-être que vous l'avez vu.
Ouais, Kubrick, c'est jamais très très soft en général.
Et c'était plus 12 ans. Ouais. Et là, je suis tombé des nues.
Ah oui.
Parce qu'à 12 ans, voir Eyes Wide Shut, je me suis dit, les images en elles-mêmes sont pas violentes, mais l'histoire, le contexte est quand même très adulte, très inquiétant. Et je me suis posé la question, au fond, j'ai trouvé qu'il y avait
donc
une forme d'incohérence.
Donc vous-même, finalement, un psychologue assez mesuré sur le sujet, de temps en temps, vous êtes inquiet.
Je suis plutôt du côté inquiet. Je ne moralise pas, mais j'essaye de me poser la question, au fond, qu'est-ce qui fait que le CSA va interdire? Vous savez qu'à une époque, vous avez le fameux Club Dorothée où des dessins animés ont été interdits. Et j'avais des collègues, juste, je raconte ça en une minute, c'était assez intrigant parce que tout d'un coup, il fallait baisser le niveau de violence de toute forme de dessin animé au point où les sorcières ne faisaient plus peur, etc. Je termine, c'est en gros...
On était allé trop loin, là.
On est allé trop loin et donc on a mis de l'humour partout. Et je pense que c'est aussi paradoxalement une dérive. Parce que vous savez, moi qui ai reçu des enfants dans le cadre d'un centre médico-psychologique, j'étais toujours très inquiet quand des enfants me disaient « je n'ai peur de rien ». Et je pense que la peur est constitutive et que les éternels Walt Disney que tout le monde a connu comme Blanche-Neige ont toujours fait peur et ils ont une fonction tout à fait intéressante.
Nous accueillons un spécialiste des médias en Afrique de l'Ouest, Moustapha Sambe, bonjour.
Alors bonjour Emmanuel.
Vous êtes maître de conférence à l'université Cheranta Diop. Alors vous travaillez en général sur les médias. Vous, quel est votre point de vue sur la question? Est-ce que on sait que la télévision est installée massivement dans les foyers au Sénégal et dans les autres pays de la région. Est-ce que d'ailleurs on sait dans quelle proportion aujourd'hui quelle place tient la télévision dans les familles dans un pays comme le vôtre, le Sénégal?
Ah, merci beaucoup. Donc, je salue tous les auditeurs des RFI et tous ceux qui sont sur votre plateau pour dire donc que la télévision fait partie aujourd'hui de notre univers. Tout le monde regarde la télévision. C'est donc un instrument attractif qui ne laisse personne indifférent. La raison pour laquelle les parents doivent davantage assumer leurs responsabilités pour protéger les enfants, les petits-enfants notamment, qui tournent autour de 3 ans, 4 ans, etc., qui ont des difficultés pour distinguer le réel de la réalité. C'est pourquoi je pense que si on considère l'évolution que ce phénomène a prise dans notre pays, avec l'augmentation de ce qu'on appelle ici l'électrification rurale, l'augmentation aussi du poste de récepteurs télévision, tout cela fait que la télévision est devenu un médium à contrôler, mais il ne s'agit pas d'être répressif. Il s'agit tout simplement d'assurer l'éducation des enfants au niveau de la famille et de surveiller les enfants de manière à ce que cela n'impacte pas négativement sur leurs études.
Oui, parce qu'on a les parents ont tendance à déléguer un peu l'éducation à la télévision, finalement. On a eu des messages qui nous disaient en Afrique, dans des pays où on a plusieurs langues, les langues locales, etc., ça permet aussi de voir des programmes en français, donc de se familiariser avec une langue qui n'est pas parlée à la maison. Au Sénégal, bien évidemment, il y a une grosse partie des programmes qui sont en Wolof, mais qu'est-ce que vous pensez de ça, vous qui avez travaillé sur les langues?
Oui, bon, il y a quand même beaucoup d'émissions maintenant en langue nationale. Même les journaux télévisés sont toujours à deux. Un journal en Wolof, ensuite un journal en français. Donc, et les autres langues aussi, on le place mais de façon donc planifiée. Donc les gens, les jeunes enfants surtout, regardent la télévision, surtout avec l'avènement des films télénovela. C'est ça vraiment le problème qui se pose à nous, parce que les productions internes ne sont pas abondantes par manque de moyens. Et on préfère donc ces télénovelas qu'on nous balance sous forme de moratoire, et que tout le monde regarde à 20h. Ces séries sont venues bousculer celles américaines comme Denis Dallas, etc.
Les télénovelas qui sont d'ailleurs brésiliens, mais aussi indiens. Maintenant, vous avez des séries indiennes qui sont diffusées au Sénégal.
On a même des séries indiennes, effectivement. Et on sait qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, Marimar avait engrangé plus de recettes publicitaires que la Coupe du Monde en 98, par la télévision ivoirienne. Donc ça, les producteurs locaux de certains pays se sentent menacés, estimant que ces films-là viennent...
Sur les apprentissages scolaires, quel est votre point de vue en un mot, Moustapha?
Oui, bon, sur les apprentissages scolaires, vous savez, il y a deux choses. D'abord, il faut s'organiser de manière à ce que l'enfant puisse apprendre ses leçons avant le film. Parce qu'à partir de 10 ans, ils veulent suivre le film parce qu'il y a toujours une suspense qui fait qu'ils veulent suivre le film suivant. Soit qu'ils apprennent les leçons avant l'heure du film, parce que si vous attendez après, l'enfant va avoir sommeil. Et on sait très bien que la télévision a des inconvénients. Par exemple, tout le monde sait que tous les spécialistes qui ont étudié sur la télévision savent que ça rend paresseux, la réflexion.
Alors justement, la télévision rend-elle paresseux? On lance le débat. Merci infiniment Moustapha Sambe. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Charanta Diop et spécialiste des médias. Merci d'avoir été en ligne avec nous à Dakar. Ça téléphone beaucoup, ça poste beaucoup de messages aussi sur les réseaux sociaux. Peut-être, je ne sais pas si vous souhaitez réagir, Bertrand Bergier ou Michael Stora, sur le point de vue de Moustapha Sambe.
Alors sur l'aspect éducatif, ça me semble important de former les élèves à l'image, c'est-à-dire c'est les former au regard, et regarder, c'est chercher. C'est-à-dire que le problème se pose lorsque l'enfant, il ne cherche rien dans ce qu'il voit, il prend tout ce qu'il voit. Être attentif, c'est pas être ouvert et disponible à tout ce qu'on voit, c'est être en position de recherche, c'est avoir un projet de recherche de quelque chose dans quelque chose. Et je me disais, en écoutant aussi votre interlocuteur, que je me disais, mais pourquoi est-ce que ça dérange tant les adultes, cette question de la télé avec les enfants? C'est peut-être parce que les adultes, les éducateurs, ils doivent s'interroger sur, finalement, quand mon enfant m'écoute, quand cet élève m'écoute, est-ce qu'il m'écoute comme on écoute la télé, c'est-à-dire un peu distraitement, en allant et venant, en écoutant une télé est un peu causée dans son coin, ou est-ce qu'il m'écoute comme on écoute quand on va au cinéma, c'est-à-dire un lieu structuré, avec une entrée, une sortie? Il y a un rituel, c'est-à-dire un lieu qui est organisé pour que l'activité mentale du sujet, elle soit facilitée.
Il faudrait, selon vous, que les enseignants se posent cette question-là, finalement, une sorte de concurrence avec la télévision. Comment suis-je écouté en salle de classe? C'est
exactement.
Ça.
Exactement. Est-ce qu'ils m'écoutent comme ils écoutent la télé? Michael Stora. Ou est-ce qu'ils m'écoutent comme ils vont au cinéma? C'est pas la même chose.
Non, c'est vrai, puisque l'ergonomie propre au cinéma fait qu'on ne voit pas les bords du cadre de l'écran. Et donc, l'immersion est beaucoup plus puissante. Et c'est vrai qu'à la maison, la télé. Sur la question de l'éducation à l'image, qui est quand même non pas forcément à quel point la télé favorise ou non le savoir, mais plutôt l'importance de comprendre qu'il ne s'agit que d'images. J'ai eu la chance en tant que cinéaste de faire de l'analyse filmique, et c'est assez étonnant parce qu'au fond, ces jeunes nés avec Internet et les jeux vidéo, comme vous le savez, se retrouvent eux-mêmes maintenant à faire du montage, toutes sortes de choses. Et ce qu'on est en train de se rendre compte, que peut-être que la nouvelle voie de l'éducation à l'image, c'est le fait de faire des films. Et vu que les jeunes maintenant en font de plus en plus, les posts sur YouTube entre autres,
l'équipement est plus accessible, etc.
L'équipement, même avec son téléphone.
Bien sûr. Beaucoup de jeunes en Afrique qui font des images comme ça.
Tout à fait. Il y a des logiciels de montage. Maintenant, le fait que les professeurs eux-mêmes utilisent des émissions télé comme support éducatif, ça fait longtemps que ça existe et c'est une excellente chose parce que oui, ça a un pouvoir de captation et en plus, on peut dans un deuxième temps en parler.
Non seulement ne pas la diaboliser, mais au contraire, l'utiliser
bien
pour
sûr,
la...
Bien sûr, il faut en faire un allié.
C'est ça. Vous nous appelez les voisins et voisines. On vous rappelle tout de suite d'ailleurs le numéro de téléphone.
7 milliards de voisins, c'est l'émission pour tous, pour les voisines et les voisins.
Les voisins et les voisines, j'ai un numéro de téléphone pour vous.
33 1 84 22 71 71.
Et c'est maintenant, appelez vite. On vous attend.
Un témoignage, un appel d'un voisin enseignant qui est à Gao, au Mali, dans le nord du Mali. Bonjour Midi.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous voulez nous téléphoner pour nous parler des... vos enfants sont très jeunes, tout petits je crois, mais vous voulez nous parler des enfants de votre frère qui peut-être vivent sous le même toit que le vôtre ?
Non, à côté.
D'accord. Bon, alors qu'est-ce que vous constatez chez vos neveux ?
C'est que moi j'ai constaté, les enfants du grand frère, ils sont à l'école. Et le matin, ils vont à l'école et ils attendent. Ils savent que leur papa et leur maman ne sont plus à la maison, sont partis à leur lieu de travail. En ce moment, les enfants, ils cherchent les coups pour revenir à la maison, regarder la télé.
Ah oui, donc ils quittent l'école en pleine journée pour rentrer chez eux, parce qu'ils savent qu'il n'y a personne chez eux, pour regarder la télé.
Voilà, pour regarder la télé. Donc quand j'ai su ça, j'ai dit à mon grand frère, il faut arrêter ça. Tu ne savais pas. Maintenant, tu es au courant que les enfants cherchent les cours pour revenir regarder la télé. Il faut trouver la solution. La solution est maintenant, la solution immédiate est de fermer la porte à clé.
Ah, je d'accord. Vais expliquer ça. Effectivement, oui.
Oui,
Stora, écoutez, psychologue.
Alors, ce qu'il y a, c'est comme toujours, il y a des histoires individuelles qui font que parce que, en général, normalement, l'école a en charge des enfants. Donc, si on fait l'école buissonnière, c'est-à-dire qu'il y a un problème aussi.
On peut comprendre aussi la fascination pour quelque chose qui est arrivé finalement relativement récemment dans certaines régions avec l'électrification, comme nous en parlait d'ailleurs le sociologue à Dakar.
Oui. Le problème avec la télé, c'est un problème finalement, c'est que la télévision est une forme d'hystérique. Elle nous allume. Elle nous donne à voir ce que l'on ne peut pas avoir. Elle est très idéalisante. L'habillage télé est quelque chose de très beau. Et finalement, on peut se dire que dans certains pays, villes ou villages, où finalement il y a beaucoup de manques, la télévision vient comme remplir un manque, même dans une illusion. Et en même temps, la télévision... comme disait un grand philosophe Marcel Bidochon, elle ne nous rend pas tout l'amour qu'on lui porte. C'est-à-dire qu'au fond, elle nous donne à voir, mais on peut rien en faire. Donc je crois que on peut se demander
quel discours il faut tenir à des enfants. Alors justement, Midi, pour l'instant, ils ont trouvé comme solution de fermer la porte à clé pour que la télévision ne soit plus disponible. Ouais. Mais finalement, comment en parler avec les enfants?
Là, il s'agit plus que simplement de regarder la télé. C'est le fait qu'il y a un problématique d'autorité, de limite. Alors c'est très compliqué parce que...
Et quand on n'est pas là, c'est le cas de très nombreux parents par le monde.
Bien sûr, mais quand on n'est pas là et que, évidemment, la télé vient colmater une absence, c'est plutôt triste et inquiétant. Et c'est vrai que la télévision vient comme envelopper les enfants, comme on l'a dit, une forme de nurse cathodique. Et je crois que évidemment, il y a un problème qui est avant tout humain. Je ne pense pas que la télévision en soi soit à l'origine de ce problème.
Merci Midi pour votre témoignage. D'autres auditeurs nous appellent. C'est Simbala qui est à Bamako, également au Mali. Bonjour Simbala.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous avez 28 ans. Vous voulez vous exprimer sur la façon dont vous aussi vous gérez la télévision avec vos neveux et nièces.
Évidemment.
C'est-à-dire.
Alors, c'est-à-dire que la télévision, Parce que ceux qui blâment beaucoup la télé, moi je suis pas d'accord, parce que moi je reste toujours, ça reste mitigé pour moi, parce que la télé nous donne souvent de très bonnes émissions par rapport à l'éducation des enfants.
C'est-à-dire, à quoi vous pensez?
Donc, c'est-à-dire que, voilà, donc il y a des émissions qui passent à la télé, donc pour mes neveux, moi et mes neveux, comme c'est moi qui encadre mes neveux et nièces, et lorsque ces émissions qui sont bien pour l'éducation de l'enfant et passent à la télé, donc moi je les appelle.
Ah
et
oui.
Donc je les dis, venez, voilà, je les appelle, venez, on va suivre ces émissions et ces, ou ces documentaires, ces émissions-là. Mmh.
Alors vous pensez à des documentaires, par exemple?
Voilà, des documentaires qui passent sur TV5 ou d'autres chaînes de télé. Et donc je les appelle, on suit ces émissions-là ensemble.
Et puis alors ensuite, une fois que c'est fini, vous éteignez la télévision?
Voilà, une fois que c'est fini, j'éteins la télé et puis je les demande qu'est-ce qu'ils ont compris et qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris.
Ah oui, d'accord, vous faites l'instituteur voilà. Derrière.
Voilà,
ouais.
Voilà, évidemment. Donc après ça, donc quand je les demande, la partie où ils n'ont pas compris, donc j'essaie de les expliquer. Et après ça, et lorsque ils veulent aller regarder la télé encore, mais quand je vois que ce sont des émissions qui sont pas bien pour eux, automatiquement je les appelle et je commence à les donner des cours.
D'accord. Voilà. Et donc à éteindre la télévision. Bah votre frère a beaucoup de chance de vous avoir, Simbala. J'ai l'impression que vous avez à peu près compris comment on peut gérer la télévision, même si évidemment on a bien saisi que c'était d'une façon relativement autoritaire. Bien évidemment, vous pouvez réagir, hein, les voisins, les voisines, au 33 1 84 22 71 71. Victor nous appelle à Libreville au Gabon. Bonjour Victor.
Bonjour.
Vous souhaitez témoigner des méfaits de la télévision sur votre parcours scolaire?
Oui.
On vous écoute?
Effectivement, la télé, dans ma jeunesse, m'a rendu très négligent pendant une bonne période. Alors, j'ai fait mon parcours primaire sans problème parce que, en fait, les parents n'avaient pas assez de moyens pour acheter une télévision à la maison. Tout allait bien. Et lorsque je suis allé en sixième, à partir de là que papa a décidé d'avoir une télévision, il l'utilisait à la chambre.
Ouais.
Et jusqu'au moment où il a décidé de le mettre au salon.
Ouais.
Tout le monde était câblé. À partir de là, il y avait des programmes, des dessins animés pour enfants. Et moi, j'étais très captivé à ces programmes. Je peux prendre un exemple de Dragon Ball Z. J'aimais très bien et puis ça me rendait très négligent. C'est-à-dire les parents me demandaient de faire ses travaux à la maison. Je ne faisais pas ça presque moi.
Et concrètement, sur votre réussite scolaire, que s'est-il passé? Vous avez redoublé?
Oui, j'ai redoublé plusieurs fois. Deux fois la classe de sixième, deux fois la classe de cinquième.
Et en fait, vous semblez dire que comme par hasard, ça a coïncidé, ce vrai problème scolaire, avec l'arrivée de la télévision dans la maison, d'abord dans la chambre des parents, et ensuite, là, fatidique, la télévision au milieu du salon est très souvent allumée. C'est bien cela.
Voilà.
Merci beaucoup Victor pour ce témoignage. Merci infiniment. Je voudrais faire réagir peut-être nos invités, Bertrand Bergier, Mickaël Stora, à la lumière de ce que vous entendez, des témoignages que vous entendez. Quel serait le mode idéal de gestion de la télévision, cette télévision qui, vous nous le disiez, Mickaël Stora, nous allume. Bertrand Bergier, qu'est-ce que vous en pensez?
J'aimais bien l'expression, effectivement, nous allume. D'ailleurs, on dit quelquefois, on parle d'enfants qui sont scotchés. Être scotché à la télé, c'est ne plus avoir la moindre distance réflexive. C'est-à-dire que ce que l'enfant voit et la manière dont il le voit ne font plus qu'un. Et il n'y a plus de mise à distance. Et donc, je pense que par rapport à ça, il ne s'agit pas de faire de la télé un mauvais objet, mais plutôt d'interroger le rapport à cette télé. Et je trouve que l'image, que ce soit celle de la télé ou d'autres écrans, ça peut être une médiation pertinente pour permettre l'accès au symbolique.
Mais alors, permettez-moi de vous poser des questions extrêmement concrètes, avec des conseils directement utilisables pour nos auditeurs. La télévision au petit déjeuner, par exemple, pour des enfants, on va dire entre 3 et 15 ans, puisque Mickaël Stora nous a dit, après 15 ans, les ados déjà s'occupent beaucoup moins de la télévision s'ils ont Internet. Qu'est-ce que vous en pensez de la télévision au petit déjeuner? Avant de partir à l'école, donc.
Okay. Moi, je serais quand même sur le parti pris. On sait que par rapport aux apprentissages, le trop-plein là est nuisible. Hein. Donc je serais vraiment pour le parti pris plutôt du
silence, de la convivialité. Pas de télé au petit déjeuner avant, avant l'école.
Oui, alors je remercie beaucoup des préconisations qui seraient voilà, érigées, mais je resterai très réservé.
Mickaël Stora.
Oui, évidemment. Alors après, comme toujours, c'est compliqué parce que c'est intéressant aussi que les parents eux-mêmes prennent conscience de ce que, au fond, de ce que la télé viendrait s'allumer le matin. Et on a envie de se dire
pourquoi l'allumer le matin avant l'école, c'est ça.
Voilà. Alors, ce sont souvent ça peut être une demande des enfants ou alors parce que au fond, c'est une sorte de bruit qui vient remplir un autre type de vide, plus compliqué, plus familial.
Tout simplement, il y a aussi des mamans qui disent il est devant la télé pendant ce temps, je peux préparer le petit déjeuner, il est pas dans mes pattes. Enfin, pour les enfants petits.
Tout à fait. Alors, mais au-delà, c'est une dérive. Vous savez, on culpabilise beaucoup les parents. J'essaye dans mon travail de faire du soutien à la parentalité, certes comprendre avec eux. Donc là, c'est vrai que les médias souvent vont nous permettre d'avoir au fond des messages comme ça un petit peu. Maintenant, j'ai tendance à penser que oui, la télé doit être un espace de récompense. Mmh. Peut-être que s'il n'est là simplement que pour remplir un vide, c'est pas forcément le meilleur des la meilleure des choses.
Je voudrais qu'on accueille un dernier auditeur qui nous appelle de Paris. Rachid, bonjour.
Bonjour Emmanuel. Je voulais juste intervenir rapidement pour réagir sur la question des gens qui n'ont pas de télé, puisque je fais partie des 2-3% de personnes qui n'ont pas de télé dans ce pays.
Oui.
Je vis à Paris. J'ai deux enfants de 13 et 10 ans et quand on l'a plus, suite à un incendie, pour la petite histoire, on ne l'a pas racheté. ils avaient tous les deux 5-6 ans. Bon.
Ouais.
Et je voulais juste réagir sur le fait que mes filles ne le perçoivent pas du tout comme une diabolisation, mais simplement comme le fait que puisqu'on n'a pas ça, eh bien, on fait autre chose. Mmh. Elles jouent, elles se détendent, elles jouent entre elles, elles se disputent. Bon, ce que font les enfants. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est pour réagir par rapport à la distance, par rapport à l'image. C'est que mon constat en tant que parent, c'est que justement, le fait de ne pas la voir au quotidien, donc de ne pas la voir spontanément, c'est que quand elles y sont, entre guillemets, quand elles ont une télé, en vacances, dans un restaurant, un café, que sais-je, eh bien, elles ont un jugement très critique, parce que justement, parce qu'elles ne voient pas la télé, elles voient un peu les ficelles de la fabrication de l'image.
Ah oui.
Et donc, moi, il me semble que le vrai problème d'avoir la télé, c'est pas tellement de fabriquer de l'image pour quelqu'un qui aurait un certain talent ou autre, c'est plutôt qu'au bout d'un moment, on est anesthésié par l'image et on n'a plus le recul nécessaire.
Et sur leur réussite scolaire, où en sont vos enfants?
Ah, ce sont de très bonnes élèves qui se couchent relativement tôt. Le seul écran dont elles disposent, si j'ose dire, c'est les titres de replay type Arte et autres, où on sélectionne beaucoup ce qu'elles regardent, un peu comme si elles allaient au cinéma.
Oui,
en
mais c'est vrai qu'il faut quand même pas bien rappeler qu'avec Internet, on a toujours la télévision, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas racheté la télévision à la suite d'un incendie. Merci beaucoup, Rachid, pour ce témoignage. Peut-être pour conclure l'émission, Bertrand Berger, Mickaël Stora, on a entendu beaucoup de choses. Est-ce que la télévision nuit à la concentration ou pas? La passivité, cette télé qui nous allume, Mickaël Stora.
Écoutez,
il y a des études là-dessus sur la concentration ensuite en classe.
On va dire que souvent les problématiques de concentration disons l'histoire est bien plus ancienne et c'est plutôt une société dans laquelle on va dire qu'on va donner les choses avant même qu'elles soient demandées. On ne va pas forcément travailler le manque suffisamment et donc on va remplir d'images, etc. À partir de ce moment-là, l'enfant aura des soucis de concentration, mais pas simplement dû à la télé. Je pense que ce qu'on tente de se dire, c'est qu'il y a un contexte familial qui est finalement beaucoup plus important que l'objet télé en lui-même. Il n'a pas cette puissance de changer l'âme.
Donc il faut se décentrer du problème télévisé pour voir ce qu'il y a autour.
Complètement.
Finalement.
Et puis, on va dire que s'il y a un idéal, il semblerait que ça a été le cas un peu du dernier témoignage, on a affaire à un papa plutôt qui élabore les choses et qui finalement peut aussi discuter avec ses enfants des images.
Ouais, enfin, il n'y a plus la télé chez lui quand même. Bertrand Berger, vous, s'il y avait une ligne de conduite à retenir par rapport à la télévision et au temps passé à éduquer ses enfants?
Je dirais d'abord de recontextualiser cette télévision, de la réinscrire par rapport au projet familial, et puis peut-être d'être attentif, c'est-à-dire vraiment en position de recherche, c'est-à-dire qu'est-ce que je recherche dans ce que je regarde. Et là, de pouvoir avoir la possibilité pour l'enfant de verbaliser, de conscientiser ce qu'il vit, ce qu'il regarde, ses envies, ses interrogations fondatrices, ça me semble vraiment important. C'est-à-dire, ça pose la question de où sont les adultes, quoi, et l'échange avec les adultes.
D'accord. Non, mais là, j'entends bien bien ce que vous nous dites, mais je me mets à la place des parents qui se disent, non mais nous on a des préoccupations concrètes quotidiennes par rapport à la télévision, notre adolescent nous réclame une télévision dans sa chambre, est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre la télévision dans la chambre?
Alors là, l'idée de que ça ne puisse plus fédérer, que ça ne puisse plus être un objet partagé, je serais contre, ouais. je me poserais à l'idée de la télévision, où on a d'ailleurs la norme maintenant, hein, c'est plus de télévision par ménage. Je pense que la télévision peut être une richesse.
Mais on a pris aussi l'habitude d'être seul devant son ordinateur, seul devant Internet, donc la télévision se regarde peut-être de moins en moins en famille, il faut qu'elle garde cette spécificité-là.
Je pense que c'est vraiment intéressant qu'elle puisse être partagée, parce que on est le monsieur qui a parlé en dernier,
Rachid,
me fait rappeler que oui, en fait, y compris les ménages qui sont sans télévision, ce ne sont pas du tout des ménages sans écran. La culture de l'écran est là, très envahissante, et que finalement, de ce point de vue-là, la télé peut être très intéressante lorsqu'elle permet de d'être un lien et d'échanger.
Michael Stora, une ligne de conduite à retenir?
Au fond, ce qu'on a envie de se dire, c'est que quand on se dit l'écran télé est un allié, oui, et en même temps, il faut aussi se dire qu'on peut avoir envie, à certains moments, tout simplement de l'utiliser comme un espace de loisir. Et je crois que souvent, lorsqu'on se sent coupable, on devient le pire des juges. Et d'une certaine manière, à partir de ce moment-là, à l'adolescence, on a peut-être envie d'avoir son espace à soi, avec le paradoxe, c'est qu'on est toujours chez ses parents.
Mais alors, vous répondez pas à la question, la télévision dans la chambre ou pas pour les ados?
Moi, je pense que pour un adolescent, oui.
Ah oui.
D'abord, il va la regarder sur son écran d'ordinateur, la télé, vous savez. Et par contre, pour un enfant, non. C'est-à-dire, voilà. Donc, je pense que c'est intéressant de ritualiser.
À partir de 15 ans, c'est ça, éventuellement?
Oui, c'est à partir d'un certain moment. C'est comme le téléphone
portable. Et si tout se passe bien à l'école, c'est ça, peut-être?
Oui, c'est intéressant d'envisager la télé comme un espace de récompense.
Bon,
aussi.
Merci à tous les deux, en tout cas. Michael Stora, vous êtes psychologue. Vous avez d'ailleurs publié Télévision et jeux vidéo, un bon dosage pour un bon usage. Chez Nathan, Bertrand Bergier, votre dernier ouvrage, c'était Pas très cathodique, enquête au pays des 100 télévisions aux éditions RS. Merci à vous tous, les voisins, les voisines, pour vos témoignages, et à toute l'équipe, Quentin Ferral, Jonas Malé-Solars, Jonathan Brady, Maxence Destop. Lundi, 7 milliards de voisins, à la veille de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, on s'intéressera plus particulièrement aux conséquences des violences conjugales sur les enfants. Et bien sûr, nous comptons sur vos appels. À lundi.